Radio Vatican, France et Afrique.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. Les différentes activités du pape au cours de la semaine constitueront l'essentiel de l'actualité de l'Église avant de nous enquérir des nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est en Afrique du Sud, au Malawi et au Kenya. L'actualité sociopolitique quant à elle nous conduira notamment en Libye et en République démocratique du Congo. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Ouvrons l'actualité de l'Église avec la semaine du pape que nous présente Camille Mukoso.
Le pape a reçu tour à tour samedi en audience privée le cardinal Marco Ele, préfet de la Congrégation pour les évêques, Monseigneur Lazare Yu Yangsi, évêque des Danjou en Corée. Au chapitre des nominations, le Saint-Père a nommé consulteur de la Congrégation pour les causes des saints, les pères Victor Minzonzi, doyen de la faculté de théologie des Pouilles et John Mockley, docteur en théologie spirituelle. Jeudi, le pape a envoyé un message vidéo participant d'une conférence internationale qui se tient à Londres, en Grande-Bretagne, sur les thèmes « Une politique enracinée dans le peuple », conférence basée sur les livres du pape François « Un temps pour changer », rédigé dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus. Dans son message, le pape réitère la conviction qu'il partageait dans son livre que tous les diocèses du monde aient une collaboration étroite avec les mouvements populaires. À l'occasion de la 58e Assemblée plénière de l'Épiscopat brésilien, le pape a adressé jeudi un message vidéo à tous les Brésiliens, alors que le Brésil est frappé des pleins fouets par la pandémie du nouveau coronavirus. François a exprimé sa proximité aux centaines de milliers de familles qui pleurent la perte d'un être cher. Je demande à Dieu d'accorder le repos éternel aux personnes décédées et de consoler les cœurs affligés des proches, a déclaré le Saint-Père, invitant les évêques à pleurer avec ceux qui pleurent et à ne pas avoir peur de se dépouiller. L'évêque de Rome a conclu son message en demandant au Seigneur que cette assemblée donne des fruits d'unité et de réconciliation pour tous les peuples brésiliens et dans la conférence épiscopale. Toujours jeudi, le Saint-Père a envoyé un message vidéo aux participants du congrès international organisé à Avila en Espagne pour commémorer le 50e anniversaire du doctorat de Sainte Thérèse d'Avila. Alors que ce congrès s'est conclu jeudi 15 avril dernier, François a rappelé aux participants que l'expression « femme exceptionnelle » utilisée pour désigner Sainte Thérèse montre combien elle a su donner l'importance à sa rencontre avec le Seigneur, avec une détermination résolue à persévérer dans l'union avec lui à travers la prière. Au cours de l'audience générale qu'il a tenue mercredi matin dans la bibliothèque du Palais apostolique, le pape a poursuivi sa catéchèse sur la prière, présentant l'Église comme une grande école de prière. Le Saint-Père a poursuivi sa catéchèse, faisant remarquer que tout dans l'Église naît dans la prière et tout grandit grâce à la prière. Le pape a conclu sa catéchèse en indiquant que sans la lumière de la prière, nous ne pourrions pas voir la route pour évangéliser, nous ne pourrions pas voir le visage de nos frères à approcher et à servir, nous ne pourrions pas éclairer la pièce où nous nous rencontrons en communauté.
Direction Afrique du Sud, une journée spéciale pour dire merci à tout le personnel de santé pour leur service désintéressé et leur dévouement en période de pandémie de COVID-19. La Commission épiscopale pour la justice et la paix a organisé l'événement dans plusieurs diocèses de l'Afrique du Sud. Les événements ont eu lieu pendant la Semaine mondiale des travailleurs de la santé qui se tient du 5 au 11 avril. Par conséquent, dans de nombreux diocèses du pays, la messe de dimanche dernier, dimanche de la Miséricorde divine, a été dédiée précisément aux médecins et aux paramédicaux, aux infirmières, aux soignants et aux bénévoles. Des célébrations spécifiques ont eu lieu notamment à Manianville et Klerkdorp. Dans toutes les églises, l'invitation adressée aux agents de santé à être les instruments de la miséricorde de Dieu pour les malades et les mourants pendant la pandémie et au-delà a résonné afin de devenir véritablement des saints d'à côté, comme le pape François les a appelés lors de la messe chrismale de 2020. Les écoles catholiques doivent refléter la vie de Jésus-Christ, c'est ce que souligne la conférence épiscopale du Malawi par le biais de la commission pour l'éducation dirigée par le frère Pascal Mtuana. S'exprimant ces derniers jours lors d'un séminaire organisé par l'archidiocèse de Lilongwe et réservé aux prêtres religieux et fidèles laïcs travaillant dans les conseils des écoles catholiques, le religieux a rappelé que le but de l'éducation catholique est de fournir une bonne formation générale dans l'esprit de l'évangile de Jésus qui nous pousse à aimer et à aider nos voisins et à apprendre à exercer notre responsabilité dans le monde qui nous entoure. Le Christ est le fondement de toute l'entreprise éducative de l'école catholique, a réaffirmé le père Mtuana. Par conséquent, les décisions et les politiques dans ce domaine doivent être éclairées et imprégnées par l'Évangile. La prière et la réflexion sont donc les outils fondamentaux proposés par le responsable de la Commission épiscopale pour l'éducation afin de pouvoir discerner les signes des temps tels qu'ils se présentent dans la vie des communautés. Dans une déclaration du mercredi 14 avril dernier, la direction de l'entité internationale pour les réfugiés de la Compagnie de Jésus du service jésuite des réfugiés, JRS, recommande au gouvernement du Kenya de faire preuve d'un maximum de prévoyance et de prudence en cette période particulière d'incertitude en considérant sagement les obligations légales imposées par le droit international et la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine. Les obligations légales incluent le principe de non-refoulement, les limites pratiques de la fermeture de camps de réfugiés à grande échelle accueillant plus de 410 000 personnes et l'obligation morale de prendre soin des plus vulnérables de la société et de poursuivre le bien commun, ajoutent les responsables du JRS. Dans cette déclaration, les responsables de l'Agence pour les réfugiés qui gère des programmes au Kenya depuis 27 ans reconnaissent avec satisfaction les efforts et l'engagement dont a fait preuve le gouvernement du Kenya pour accueillir et protéger généreusement les réfugiés et les personnes déplacées au fil des ans, en jouant un rôle de premier plan dans la région et en assurant un espace sûr à des milliers de familles en quête d'asile. Le JRS reconnaît également que la situation au Kenya pour les personnes déplacées de forces de Somalie, du Sud-Soudan, des Grands Lacs et plus récemment de la région du Tigré en Éthiopie s'aggrave en raison de conflits prolongés et émergents et de la pandémie de COVID-19, ajoute-t-il.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'Érythrée a reconnu pour la première fois la présence de ses troupes au Tigré en Éthiopie, promettant de les retirer dans une lettre adressée dans la nuit de vendredi à samedi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour rappel, début novembre 2020, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé l'envoi de l'armée fédérale au Tigré pour arrêter et désarmer les dirigeants locaux du Front de libération du peuple du Tigré, dont les forces sont accusées par Addis Abeba d'avoir mené des attaque contre des camps militaires des forces fédérales. Addis Abeba et Asmara ont longtemps nié que les Érythréens étaient actifs dans la région malgré les témoignages de résidents, de groupes de défense de droits humains, des diplomates et même de certains responsables civils et militaires éthiopiens. La population de la capitale libyenne Tripoli a commencé à recevoir le premier vaccin anti-Covid samedi, les autorités donnant la priorité aux personnes âgées et au personnel médical. Assises à l'extérieur et respectant la distanciation sociale, des dizaines de personnes âgées attendaient leur tour dans la matinée devant un centre de vaccination à Tripoli. Selon le Centre national libyen de lutte contre les maladies, le vaccin AstraZeneca est réservé aux plus de 70 ans et le vaccin Sputnik V est destiné au personnel médical et aux 50-60 ans. La Libye enregistre actuellement environ un millier de nouvelles contaminations par jour, en hausse par rapport aux derniers mois, avec un bilan officiel de 171 131 cas, dont 2 882 morts dans le pays où les infrastructures sanitaires ont été fragilisées par le conflit ces 10 dernières années. Si seuls les nationaux ont accès à cette plateforme, les autorités ont assuré que tout le monde serait vacciné, y compris les étrangers en situation irrégulière. Malgré l'apparition de nouveaux variants du virus, aucune mesure de confinement ou de couvre-feu nocturne n'a été adoptée. Seul le port du masque en milieu clos est obligatoire.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, s'est inquiété samedi de l'afflux de blessés par armes dans les hôpitaux de la province du Nord Kivu après les manifestations contre la mission de l'ONU qui ont secoué cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de 120 personnes blessées sont prises en charge à l'hôpital général de référence de Beni et à l'hôpital Ndosho de Goma, avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge, a indiqué cette organisation humanitaire. Ces manifestations, associées à une grève générale dans plusieurs villes, ont été organisées à l'appel de groupes de pression et des mouvements citoyens dénonçant l'inaction de la mission des Nations Unies MONUSCO face au massacre des civils dans la province du Nord Kivu. Le père Antoine Kériel, secrétaire général de la Compagnie de Jésus, nous introduit à la méditation avec les lectures du troisième dimanche de Pâques.
Les textes lus en ce troisième dimanche de Pâques attirent notre attention sur deux aspects du temps liturgique que nous vivons. D'un côté, nous entendons proclamer la bouleversante nouveauté de Pâques. Pierre rappelle solennellement aux hommes d'Israël que Dieu a ressuscité des morts le prince de la vie, et Jean invite à l'espérance. Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Et d'un autre côté, il nous est rappelé que cette nouveauté s'inscrit dans l'histoire d'Israël. L'inouï de Pâques plonge donc ses racines dans l'alliance que Dieu a scellée avec son peuple. Loin d'être un événement qui ferait irruption avec la soudaineté d'un éclair dans l'histoire de Dieu avec son peuple, Pâques est comme en germe dans les Écritures. Pâques est le lieu où s'accomplissent les Écritures. Revenons sur ces deux aspects. La nouveauté radicale que nous vivons en ce temps pascal est celle de la résurrection, de la victoire de la vie sur la mort, de la découverte du chemin tracé par Jésus pour tous les êtres humains. Cette nouveauté est un événement bien situé dans l'histoire. Dans l'extrait de l'évangile de Luc que nous entendons aujourd'hui, Jésus se rend présent aux disciples, et devant leur doute, car ceux-ci croient voir un esprit, il leur dit « Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Et puis, avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ce passage met en scène l'étonnement des disciples, voire leur stupeur devant la résurrection. Les disciples sont profondément troublés devant ce Jésus qu'ils ont bien connu, mais qu'ils placent désormais dans l'univers de la mort, car ils savent que ce Jésus, qu'ils ont bien connu, a été soumis au supplice de la croix. Comment ce même Jésus peut-il être présent devant leurs yeux? De nombreux passages de l'Évangile insistent sur les difficultés des disciples à reconnaître que Jésus a passé la mort. Les disciples sont pris entre leur joie de croire et les souvenirs qu'ils gardent d'une effroyable désillusion. Il leur faut du temps pour accepter le ressuscité. En fait, ils ne pouvaient accepter le ressuscité que si leurs yeux s'ouvraient à l'intelligence des Écritures. Sans doute étaient-ils pétris d'une tradition qui leur faisait espérer un Messie couvert de gloire et d'honneur, apte à redonner à Israël sa place parmi les nations, c'est-à-dire une place prestigieuse de peuple témoin de l'alliance scellée avec Moïse. L'arrestation de Jésus, son rejet par les autorités religieuses et politiques de son peuple, sa livraison au pouvoir occupant païen, sa condamnation à mort et son supplice sur la croix, tout cela ne correspondait en rien à l'image qu'il se faisait du Messie annoncé. Pourtant, les Écritures avaient dû les mettre sur la piste du serviteur humble et souffrant, à l'image du Dieu patient et miséricordieux qui n'a jamais cessé de relever son peuple infidèle, de tirer son peuple hors des chemins de mort qu'il s'obstinait à emprunter. Par sa mort en croix et sa résurrection, Jésus accomplissait les Écritures. On pourrait dire qu'il manifestait, en les parachevant, les enseignements que Dieu avait donnés au peuple de l'Alliance. Nous pouvons le dire aujourd'hui, Jésus porte à sa plénitude la tradition qui préparait le peuple de l'Alliance à l'incroyable nouveauté de la vie reçue de Dieu. En ce sens, Pâques est le lieu d'une profonde conversion. Conversion à la manière de faire de Dieu. Conversion à la forme de vie inaugurée par Jésus et que l'Église, corps du Christ, ne cesse d'apprendre au fil des siècles, malgré les chaos de son histoire. Aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il nous aide à entrer dans cette vie nouvelle dont l'Église, c'est-à-dire nous tous, sommes appelés à témoigner.
Place au père jésuite Martin Baratti qui continue de nous présenter l'encyclique Fratelli Tutti du pape François.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la lecture du deuxième chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Nous lisons ensemble le quatrième point qui se concentre sur les personnages de la parabole du bon samaritain. Selon l'encyclique, le récit commence par une allusion au brigand et le point de départ que Jésus présente est une agression déjà consommée. Partant de cette image, le pape montre que nous avons vu avancer dans le monde les ombres épaisses de l'abandon, de la violence au service d'intérêts mesquins de pouvoir, de cupidité et de clivage. La question pourrait être celle-ci. Laisserons-nous gisant à terre l'homme agressé pour courir chacun nous mettre à l'abri de la violence ou pour poursuivre les brigands? L'homme blessé sera-t-il la justification de nos divisions irréconciliables, de nos indifférences cruelles, de nos affrontements internes? L'encyclique propose ensuite de poser un regard franc sur ce qui passe outre. Innocente ou non, cette indifférence redoutable consistant à passer son chemin, fruit du mépris ou d'une triste distraction, fait des personnages du prêtre et du lévite un reflet non moins triste de cette distance pour s'isoler de la réalité. Et le pape de démontrer qu'il existe de nombreuses façons de passer outre qui se complètent. L'une consiste à se replier sur soi-même, à se désintéresser des autres, à être indifférent. Un autre est de ne regarder que dehors. En ce qui concerne cette dernière façon de continuer son chemin, dans certains pays ou milieux, il y a un mépris envers les pauvres et envers leur culture, et un mode de vie caractérisé par le regard dirigé vers l'extérieur, comme si on tentait d'imposer de force un projet de société importé. Le pape souligne un détail à ne pas ignorer des personnes qui passent outre. Il s'agit bel et bien de personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu, un prêtre et un lévite. Le pape pense que c'est un avertissement fort. C'est le signe que croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Une personne de foi peut ne pas être fidèle à tout ce que cette foi exige d'elle, et pourtant, elle peut se sentir proche de Dieu et penser avoir plus de dignité que les autres. Le paradoxe, c'est que parfois, ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. En parlant des brigands de la route, l'encyclique affirme qu'ils ont souvent comme alliés secrets ceux qui passent outre en regardant de l'autre côté. Le cercle est fermé entre ceux qui utilisent et trompent la société pour la dépouiller et ceux qui croient rester purs dans leurs fonctions importantes, mais en même temps vivent de ces systèmes et de ces ressources. C'est une triste hypocrisie que l'impunité du crime, de l'utilisation d'institutions à des fins personnelles ou corporatives, affirme le pape. On alimente la désillusion, le désespoir, ce qui n'encourage pas un esprit de solidarité et de générosité. Le pape juge qu'enfoncer un peuple dans le découragement, c'est boucler un cercle pervers parfait. C'est ainsi que procède la dictature invisible des vrais intérêts cachés qui s'empare des ressources et de la capacité de juger et de penser. À la fin de ce quatrième point, le pape nous invite à regarder l'homme blessé. Parfois, stipule l'encyclique, nous nous sentons comme lui, gravement blessés et gisant à terre au bord du chemin. Nous nous sentons aussi troublés par nos institutions désarmées et démunies, ou mises au service des intérêts d'une minorité, de l'intérieur et de l'extérieur. En effet, souligne le pape, dans la société globalisée, il y a une manière élégante de tourner le regard de l'autre côté qu'on adopte souvent, sous le couvert du politiquement correct et de mode idéologique, au regard de celui qui souffre sans le toucher. on les voit à la télévision, en direct. Et même on utilise un langage apparemment tolérant et plein d'euphémismes.
Invité du jour.
Notre invité du jour est le père Théodore Ndoli, prêtre du diocèse de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, théologien psychothérapeute de couple et de la famille. Décrété le 27 décembre 2020 par le pape François, l'année de la famille Amoris Laetitia s'est ouverte le 19 mars dernier en la solennité de la fête des Saints Joseph. Dans cette première partie de l'entretien que nous vous proposons, le père Ndoli nous parle de l'enjeu de cette année pour la famille africaine catholique. Il indique pour commencer que l'année de la famille Amoris Laetitia est une invitation à redécouvrir cette exhortation apostolique post-synodale du pape François qui est Amoris Laetitia sur l'amour dans la famille. Suivez.
Nous savons tous que la famille aujourd'hui est en perte de vitesse, la famille est malade. Un travail important avait été débuté en 2014-2015 qui a abouti sur la sortie de Amoris Laetitia, la joie de l'amour dans les familles. 5 années après, donc à l'occasion du 5e anniversaire de la sortie de cet important document, il fallait qu'il y ait quelque chose de fait. Et donc le pape, il a voulu décréter cette année-là, année de la famille Amoris Laetitia, c'est-à-dire c'est une invitation à nous aider à aller redécouvrir, à aller exploiter ce document important qu'est Amoris Laetitia.
Une autre manière d'interpeller la famille chrétienne à vivre l'évangile.
C'est ce qui pourrait justifier l'enjeu parce que à travers cette année consacrée à la famille et surtout on rattache Amoris Laetitia à la joie de la famille. Donc c'est une invitation à aller redécouvrir vraiment les valeurs de la famille que le pape a ressassé, sinon les pères synodaux et bien d'autres participants ont ressassé et qui a été consigné par écrit dans cet important document. Mais aussi, c'est une invitation à remettre en cause l'approche pastorale de la famille et du mariage. Tout ce qui est préparation au mariage, l'accompagnement des couples, le suivi des enfants et bien d'autres choses. Vraiment, les mots aujourd'hui, les difficultés que rencontre la famille aujourd'hui. C'est une invitation à prêter une attention très particulière.
On pourrait dire aussi une invitation à remettre la famille au centre.
De faire découvrir la famille comme une valeur pour la société, mais bien plus une valeur pour l'Église.
Alors, nous allons parler de l'enjeu de cette année de la famille Amoris Laetitia pour la famille chrétienne en Afrique.
La foi chrétienne est une valeur et nous permet de découvrir beaucoup de valeurs, entre autres les valeurs de la famille. L'enjeu ici, c'est nous aider à découvrir les vraies valeurs de la famille, surtout les valeurs que nos familles africaines devenues chrétiennes peuvent épouser et laisser de côté ce qu'on pourrait appeler des contre-valeurs, mais que les Africains vont voir sous la forme des valeurs. Et puis, c'est une invitation aux familles, à travers toute cette année, à œuvrer pour maintenir ce qui est valeur qui nous est propre, reçu de l'Évangile, et à côté de tout ce que nous recevons, et si on y prend garde, risque de déconstruire nos familles. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui on fait tout pour que les familles homosexuelles puissent émerger, soient présentées comme un modèle de famille à adopter, à doter des modèles ordinaires de famille, que ce soit la famille élargie, la famille conjugale, la famille monoparentale, féminine ou masculine, ainsi de suite. On veut nous aider à découvrir une autre forme de famille. Et en bien plus, on veut nous aider à prendre cette autre famille comme valeur. Mais non. Alors face à cela, moi je crois que c'est une chance que le Saint-Père nous offre en décrétant cette année-là, année des familles, et nous aider vraiment à conserver les valeurs, comme je le disais, reçues de l'Évangile, de notre foi, et mettre l'accent sur les vraies valeurs de la famille, de l'éducation. Dans le document du pape, il insiste beaucoup sur la valeur éducative du noyau familial fondé sur l'amour. Que ce soit au niveau de la famille africaine tout court, la famille africaine chrétienne, l'éducation est une valeur.
Vous avez parlé de valeurs et de contre-valeurs. Quelles sont ces valeurs-là de cette famille et bien sûr quelles en sont les contre-valeurs?
Ce qui représentait une valeur reconnue de tous et que nos parents essayaient d'appliquer, l'éducation des enfants ne revenait pas seul à ses parents, mais à la grande famille et même, je vais dire, à l'entourage. La valeur de solidarité, même dans l'éducation d'un enfant, ça c'est une valeur éminemment africaine. Donc, il est question, une fois de plus, pour nos familles africaines particulièrement, de faire tout pour garder ce qui est valeur propre à elles, valeur reçue de l'Évangile, c'est-à-dire ne pas perdre notre identité.
Et quelle est cette identité de la famille chrétienne africaine?
D'abord, la famille chrétienne, c'est celle-là qui est issue du mariage. C'est le mariage qui fait naître la famille. Il ne faut pas poser la famille avant le mariage. C'est le mariage qui fait naître la famille. Déjà, dans nos premières sociétés, les sociétés africaines, on ne va pas vivre avec quelqu'un, on ne va pas cohabiter, faire des enfants avant de faire le mariage traditionnel. On fait le mariage traditionnel et puis après, on va aller cohabiter, faire des enfants, donc constituer une famille. Aujourd'hui, ce qui devait être l'exception a commencé à devenir la règle. C'est-à-dire, on va cohabiter, on fait des enfants avant de faire le mariage traditionnel et puis avant d'aller faire le mariage chrétien.
Alors, pensez-vous que cette année décrétée par le pape, l'année de la famille Amoris Laetitia, peut-elle aider à donner un nouveau souffle à la famille chrétienne catholique en Afrique?
Oui, je dis oui avec certitude parce que il nous a donné une feuille de route. Il s'agit notamment de renforcer la pastorale de la préparation du mariage, de mieux aider les couples après leur union et dans l'éducation de leurs enfants, de créer des cercles de réflexion et de parole sur la beauté et les difficultés de la vie familiale. Et enfin, soutenir les couples en crise et les familles blessées. Si nous suivons, nous en tant que pasteurs, aidés par l'association des familles chrétiennes et des personnes de bonne volonté, si nous suivons cette feuille de route du pape, je crois qu'on pourra faire un travail formidable pour la famille africaine chrétienne.
Le père Théodore Ndoli, prêtre du diocèse de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, il est théologien psychothérapeute du couple et de la famille, il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Nous sommes à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi en compagnie de Donatien Niembo. Le rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence, même radio.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile.